rapport à la méchanceté, à la persécution, etc. On est édifié, enfin ça nous tire vers le haut. On a envie de faire comme lui. Alors aujourd'hui, surtout, faites pas comme lui. Donc c'est très désagréable ce message de ce matin. Et je disais au Seigneur, j'ai pas envie de prêcher là-dessus. C'est triste. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de voir ce texte d'une façon différente? Parce que raconter les bêtises de quelqu'un, c'est pas plaisant. Et surtout quand ce quelqu'un est David. Et je crois que le Seigneur a répondu à ma prière. Et on va lire le texte avec une autre perspective. Voilà. Alors laquelle? Bien, vous savez que quelqu'un a dit, je crois que c'est quelqu'un de Jeunesse en Mission, qui disait à juste titre, Dieu est un père, notre père, hein, je ne vous apprends rien, avec un cœur de mère. Ah, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça traduit très bien qui est Dieu dans la Bible. D'ailleurs, il y a des merveilleux passages où Dieu se présente comme une mère qui console son fils sur ses genoux, etc. Enfin, c'est très très beau passage, c'est clair, hein, il n'a rien inventé, celui qui a dit ça. Dieu est un père avec un cœur de mère. Alors, je vais m'adresser aux mamans, j'espère que les papas peuvent comprendre aussi. Quand vous avez petit loulou qui agace grand loulou à la maison et que ça commence à se bagarrer, je crois que dans tout cœur de mère, quand ça commence à prendre des proportions, il y a un stress. Si vous êtes comme moi, ça fait un stress. Oh là là, encore, pourquoi, etc. Même si vous savez que petit loulou a été vraiment désagréable, vous prenez pas parti. Il y a un stress, là, ça fait mal, ça fait de la peine. Il se blesse, ça finit parfois mal, hein. Ça met en colère aussi, parfois, suivant le caractère des mamans. Bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil pour les filles. Les petites cocottes qui se battent, c'est pas marrant non plus. Là, je parle pas du cœur des grands-mères, puisque Dieu n'a pas de petits-enfants. C'est connu. Donc, on s'arrête aux mamans. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et quand on lit un texte comme celui qu'on va lire tout à l'heure, je voudrais que vous vous mettiez un tout petit peu à la place de Dieu. Alors vous allez me dire, oh, ben oui, parce qu'il a un cœur de mère. Et toutes les mamans, et je pense aussi tous les papas, peuvent rentrer dans cette vision. Qu'est-ce que Dieu a ressenti dans son cœur quand il a vu David sur le toit de sa maison? C'est important de se placer de ce côté. Parce qu'on a toujours l'impression que oui, Dieu est là, il veille sur moi, etc. Oui, et Dieu est parfait, il ne fait pas le mal, etc. Seulement, Dieu a des sentiments, on est bien d'accord. Et donc Dieu souffre, comme tous les gens qui ont des sentiments. Dieu souffre. Et quand il nous voit faire des bêtises, des petites ou des grosses, qu'est-ce qu'il ressent? Et c'est peut-être avec cette perspective que j'aimerais bien qu'on lise ce texte. Qu'est-ce que Dieu pouvait ressentir ce jour-là? Vous savez, en tant que responsable, que ce soit avec quand je faisais la culture biblique avec les enfants, que ce soit dans l'église ou à la mairie, on ressent toujours une joie énorme quand on voit les gens faire bien. Et quand je vois les nouveaux responsables de l'église faire des bonnes choses, et Dieu sait qu'ils font beaucoup de bonnes choses, ça crée une joie. Ça crée une joie dans le cœur. Et c'est rien par rapport à ce que Dieu peut ressentir, hein, mais ça crée une joie. Et chaque fois que, et ce n'est pas le cas, mais chaque fois que des responsables dans l'église font des grosses bêtises, ça crée une tristesse, un stress. Et on n'est que humain, nous, hein. Mais imaginez Dieu. Imaginez, alors je voudrais que maintenant on va lire le texte et essayer de vous mettre à la place du Seigneur, qui est content de David depuis des années. Depuis des années, cet homme persécuté cherche toujours la droiture, l'équité, la justice. Et qu'est-ce qui lui prend ce jour-là? Le cœur de Dieu était tellement réjoui. D'ailleurs, vous avez un petit aperçu de ça quand vous lisez le début du livre de Job. Lisez le début du livre de Job. Pas tout, parce que ça va vous déprimer. Mais juste le début. Le début, on voit le diable qui réclame Job pour lui faire du mal. Et Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job, comme il est juste, etc. On sent une fierté dans son cœur. Est-ce qu'on pense, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais qu'on peut faire la fierté de notre Seigneur? Ben oui, ce n'est pas un mauvais sentiment. Dieu peut être fier de nous, et on le sent parfois. Quand on a réussi à passer au-dessus de notre âme, qui nous dit, ouais, réagis, venge-toi, fâche-toi, enfin bon. Et quand on réussit à dire, non, je vais faire la volonté de Dieu, on sent cette joie du Seigneur. Essayez de voir un petit peu quand vous faites des bons choix, des choix qui vous coûtent, mais des bons choix qui plaisent au Seigneur. Je suis sûre qu'au fond, vous ressentez cette joie, même si ça vous coûte, parce qu'on fait la joie du Seigneur. Ah, souvent, on dit « je suis la joie du Seigneur » et à chaque fois, moi, que j'entends ça, je me dis « wow, j'espère ». Voilà. Et en fait, oui, et ce n'est pas un mythe, hein, c'est la vérité. Mais malheureusement, chaque fois qu'on fait les mauvais choix, qu'on fait les choses mécaniquement, qu'on les fait dans une sorte de chantage, « Seigneur, je fais ça pour toi, mais toi, tu vas faire ça pour moi. » Ouh, qu'est-ce que ça doit faire mal au Seigneur. Vous imaginez ce qu'il ressent dans son cœur? Donc, on va faire cet effort. On va attaquer ce texte épouvantable. Moi, je ne l'aime pas du tout. Et puis, on va essayer de se mettre un tout petit peu à la place du Seigneur, qui jusqu'à présent était tellement content de son fils David, tellement fier de ses bons choix, de sa justice. Et puis, il l'a soutenu, il lui a donné la victoire sur Goliath, sur plein de gens. Il lui a donné le trône, il lui a donné un palais, il lui a donné une belle ville, il lui a donné des serviteurs, etc. Il commençait à être dans une belle vie. À l'année nouvelle, au temps où les rois partent en campagne, ah, c'est pas un hasard, ça. Hein. Vous savez, dans la Bible, chaque phrase a son intérêt. Et quand il dit « au temps où les rois partent en campagne », c'est un temps particulier. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la bouillasse et on peut commencer à attaquer ou se défendre, suivant les cas. David envoya Joab avec ses hommes et tout Israël. Aïe, aïe, aïe. Les rois partent en campagne, mais David, il envoie quelqu'un d'autre. Bon, et tout Israël. D'habitude, David était à la tête de l'armée et à la tête de tout le peuple d'Israël, rappelez-vous. Déjà du temps de Saül, d'ailleurs. Pour détruire les Ammonites et assiéger Rabba. Donc les Ammonites, on l'a vu dans le passé, hein, c'était des ennemis jurés d'Israël, pour toutes sortes de raisons. David, lui, resta à Jérusalem. Vous avez vu le contraste. Les rois partent en guerre. David envoie quelqu'un d'autre et il reste à Jérusalem. Aïe. Le cadre est posé. Un soir, David se leva de son lit. Qu'est-ce qu'il faisait dans son lit toute la journée? Bon, la sieste, j'imagine. Il alla se promener sur le toit en terrasse de la maison du roi. Ouais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bethsabée, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hittite. David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit auprès de lui. Il coucha avec elle alors qu'elle se consacrait pour se purifier de son impureté. Puis elle rentra chez elle. La femme fut enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Aïe. Aïe, aïe. Il est roi. Il est extrêmement bien établi, le peuple est vainqueur, il a agrandi ses frontières, il a remporté des victoires énormes sur ses ennemis, des ennemis de longue date même. Il a soumis des peuples à des tribus, il a récupéré un butin extraordinaire, il a amassé beaucoup d'or et d'argent, pas pour lui, pour construire le temple. Ses ennemis n'osent plus l'affronter, c'est les derniers là quasiment, il y en aura encore un petit peu, mais ça se termine. Il est au sommet de sa gloire militaire, et ça c'est important. David est au sommet de sa gloire militaire. Les peuples alentour le craignent. Il est célèbre, et on lui fait énormément de cadeaux. Les petits rois là du coin, ils en profitent pour lui faire des cadeaux. Ils veulent sa grâce. Il a des serviteurs en grand nombre, des hommes extrêmement fidèles et dévoués. des conseillers, des prophètes. Il est riche d'un butin énorme au niveau des terres, hein, des territoires, des troupeaux. Il a, hélas, beaucoup de femmes et d'enfants. Et là, Samuel avait prévenu que c'était un danger et c'est aussi dans la loi que les rois ne devaient pas. Mais c'était un moyen facile de faire des alliances, bien sûr. Il n'a apparemment plus d'ennemis à l'intérieur, en tout cas on n'en parle pas. Personne qui semble prêt à le trahir, ça va changer bientôt, ou le chasser, parce que le pays est dans la prospérité. Alors, quand on est dans le combat, ce qui a été le cas jusque maintenant, on mobilise toute son énergie. Vous savez, quand il y a les ennemis aux portes de la ville, et là, on est en train de le vivre avec l'Ukraine, on s'attend à Dieu jour et nuit. Mes parents qui ont vécu la guerre m'ont raconté, et mes beaux-parents aussi, à quel point ils priaient tous les jours. Je me souviens, Evelyne me racontait que sa maman montait dans le grenier et priait pendant la guerre. On sait qu'on ne peut pas compter sur soi-même ni sur ses propres forces, évidemment. On se sait fragile quand on a un ennemi qui est aux portes. On sait qu'on a besoin de Dieu pour survivre. La haine, l'opposition, les trahisons, les épreuves, ça n'a pas cassé David. Ça n'a pas cassé David. Il était prêt. Son énergie était mobilisée. Il s'attendait à Dieu jour et nuit. Et il est resté dans l'obéissance, l'humilité, l'écoute de la volonté de Dieu. Rappelez-vous, il interrogeait Dieu pour n'importe quoi. Enfin, même des petites choses. Seigneur, est-ce que je refais la même chose? J'y vais pas, j'attaque, je n'attaque pas. Il était dans le respect, la bienveillance, une grande loyauté envers Saül, hein, une grande fidélité à ses serments par rapport à Jonathan, fidèle dans ses alliances et fidèle dans la grâce. Et ça, pour son époque, franchement, c'était révolutionnaire. Faire grâce à Abner, le général de Saül, oh, c'est inimaginable. Il était dans la grâce. Faire grâce à Mephibosheth, le petit-fils de Saül. Pleurer sur la mort de Ish-Bosheth. Je crois que David pouvait être fier d'avoir tenu ses promesses. Et Dieu était fier de lui, j'en suis sûre. Il a tenu ses promesses faites à Jonathan. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Eh bien, tout ce qu'il avait à faire, David, c'était de continuer ce bon combat. Mais on est humain. Se reposer un petit peu? Envoyer les autres à la guerre, à notre place? Alors, il fait une longue sieste. On ne reconnaît pas trop David, là. Ce n'était pas le genre à faire des longues siestes. Il se lève vers le soir. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire à cette heure-là? La nuit va tomber, j'imagine. Hein, je ne sais pas s'il y a un gros décalage avec nous au niveau... La nuit tombe à peu près à la même heure en Israël? Un petit peu plus tôt. OK, donc on n'est pas trop tard. Il se promène sur sa terrasse, puis il regarde autour de son palais. On n'a jamais vu David traîner comme ça, mais bon. Lui, le vainqueur de Goliath, un héros de guerre, ça fait bizarre. Hein, un musicien, un compositeur, un poète... On l'imaginerait plutôt avec un instrument de musique sur sa terrasse. On peut se demander, est-ce qu'il est en panne d'inspiration? L'homme selon le cœur de Dieu, adorateur, est-ce qu'il est en panne dans sa relation avec Dieu? Il était toujours entouré d'amis, de partisans, de conseillers. Est-ce qu'il est en panne de relations humaines? Mari de plusieurs femmes, hélas, père de nombreux enfants, est-il en panne de relations familiales? Parce que même, traîner sur sa terrasse, quand on a plein d'enfants... Je ne sais pas, il y a beaucoup de pères de famille, je ne sais pas si quand tous les enfants sont là, vous avez le temps de traîner dans le jardin ou sur la terrasse ou sur le balcon. C'est pas évident. Il est humain tout comme nous, il est arrivé au sommet et le problème, il n'a plus grand-chose à désirer. Il a tout, Dieu lui a tout donné. Et puis... Bon, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois. Ça peut créer un petit coup de déprime. Moi, j'avais lu ça dans un journal sur la construction des maisons qui prévenait les gens qu'une fois que tous les projets sont réalisés, que la maison est faite, etc., il y a souvent un petit coup de déprime. C'est l'être humain. Une fois qu'il est arrivé au but qui s'est fixé, alors que ce soit une maison ou autre chose, hein, il y a un petit coup de mou. C'est possible, hein. C'est vrai pour beaucoup de choses dans la vie. Le succès qu'on a attendu longtemps, une fois qu'on l'a atteint, il peut être suivi d'un temps de légère déprime. David était habitué au combat depuis des années. Est-ce qu'il saura vivre dans la paix? Et vous savez, ça, André et moi, on l'a remarqué même dans l'Église. Quand l'Église vit un combat, les gens se mobilisent, ils prient. Et puis, bon, ça dure quelques temps quand même. Hein. Et puis, quand la paix revient, au bout de peut-être quelques mois ou quelques années, on s'installe dans une sorte de routine paisible. Et on oublie que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et que lui, il ne prend pas de vacances. Lui, il ne se repose pas sur sa terrasse. Et souvent, il y a des chrétiens qui sont des bons combattants, de très bons combattants. Mais quand on arrive dans un temps de paix, ça ne marche plus. Ils sont perdus. Il y a un côté déprime. Ça se voit chez les humains, ça se voit là chez David. Il va se laisser prendre au piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait, il connaît nos périodes de fragilité. Et c'en est une. La victoire acquise et la paix sont aussi des périodes de fragilité. On ne croirait pas, hein ? Pense plutôt que quand tout va bien, on est fort. Hein ? Le diable peut exploiter ces périodes de paix. Donc quand l'Église va retrouver cette paix, cette routine sympathique, attention, restons combatifs. Donc un petit sentiment dépressif, il a atteint tout ce qu'il voulait. Et je fais quoi maintenant? Le temple, il a demandé à construire le temple, Dieu lui a dit non, il a accepté. Mais il y a peut-être quand même un petit, je fais quoi maintenant? Au sommet de sa gloire, il pense qu'il mérite du repos, et c'est pas faux. Mais repos, oui. Mais faire tout ce qui me plaît, non. Je suis roi, je suis au-dessus des lois, pas la peine d'appeler un conseiller. Dieu avait prévenu par Josué et Samuel, attention, quand vous aurez un roi. David subit évidemment l'influence des cours royales autour de lui, où les rois faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient autorité sur tout et tout le monde, ils avaient droit de vie, de mort. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour le roi d'Israël. Il voulait que le roi d'Israël soit un modèle de justice, d'équité pour les autres pays. Malheureusement, David l'a fait jusqu'à ce point-là. L'ennemi va profiter de cette période délicate. Le fruit est mûr, a pu qu'à le cueillir. Il a une alliée formidable, la voisine. La voisine du palais, qui est fort belle. Son mari est à la guerre, elle prend son bain sans se soucier d'être vue depuis les maisons avoisinantes. Ça, je trouve ça un peu bizarre, surtout pour l'époque où les femmes étaient voilées et tout. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Naïveté ou ruse? Ah, tous les théologiens se posent la question et ils sont partagés. Naïveté ou ruse, elle devait être très jeune. Consciente ou inconsciente? Qui sait? Bethsabé ou Bathsheba, suivant les traductions. Elle était consciente, elle était rusée ou elle était naïve et inconsciente, on ne sait pas. Il y a quand même un petit point que quelqu'un a soulevé, c'est que la Bible n'évoque pas de protestation de sa part. Alors vous allez me dire, à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas protester. Ouais, mais Tamar, elle a protesté. Elle n'a pas eu de gain de cause, mais elle a protesté. Bon. On ne va pas trancher. Vous savez, quand la Bible ne tranche pas, comme disait le professeur de théologie de Vaud, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, quand la Bible ne tranche pas, eh ben, on ne tranche pas non plus. Donc, la question reste posée, l'un ou l'autre. Est-ce qu'elle est honorée d'être marquée par le roi, peut-être? Est-ce qu'elle a peur de refuser? Les avis sont donc partagés. Alors, la première chose que David fait quand il la voit, il va chercher des informations. Jusque-là, ça peut se comprendre. Et il envoie des serviteurs s'informer sur son identité. Et la réponse devrait lui suffire. Bethsabé, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite. Alors là, ça en disait long. Peut-être pas à nous, mais à David, oui. Parce que fille d'Éliam, si j'ai cherché qui était Éliam. Éliam était le fils d'Achitophel, le grand conseiller de David. Ah, et Éliam est un des 30 vaillants hommes de David qui est cité en 2 Samuel 23, fils d'Achitophel, 2 Samuel 11, un des conseillers de David, 2 Samuel 15, vous retrouvez tous ces renseignements-là. Achitophel était réputé donc le grand-père de cette demoiselle, cette dame, était réputé pour l'excellence de ses conseils. C'est 2 Samuel 16 qui nous dit ça, parce qu'ils étaient considérés comme des oracles de Dieu. Donc, elle n'avait pas n'importe quel grand-père, cette dame. C'était, on allait dire, un peu le conseiller numéro 1 de David. Ses conseils étaient reconnus comme des oracles de Dieu. Donc, le fils, son papa, Éliam, était un des 30 hommes vaillants qui sont cités en 2 Samuel 23, qui était autour de David. C'était pas n'importe qui. On va voir plus tard qu'Achitophel va tourner sa veste et va pas hésiter à trahir David et à montrer à Absalom comment l'anéantir, mais on verra ça plus tard. Et il se suicide d'ailleurs quand il voit qu'Absalom préfère suivre les conseils d'un autre, moins compétent que lui. Mais on considère souvent, les théologiens considèrent souvent qu'il préfigure la carrière de Judas, qui a trahi Jésus. Donc apparemment un bon conseiller, mais qui a mal tourné. Ceci étant, à cette époque-là, Achitophel était encore un bon conseiller. Donc là, on est quand même dans un problème. En plus, elle est femme de quelqu'un. Et ça, ça rigolait pas à cette époque-là. Maintenant, c'est presque un haut fait, mais à cette époque-là, non. Et non seulement Uri était un héros de David, il est cité parmi les héros de David de Samuel 23, 39, mais c'était un étranger, un Hittite ou un Hétien, suivant les traductions, qui s'était converti au judaïsme. Et il aimait Dieu de tout son cœur. On va le voir plus tard. Très attaché à obéir à Dieu. Et vous savez, j'ai eu la curiosité, parce que les noms dans la Bible ont un sens. Et j'ai eu la curiosité de chercher le sens du nom Uri, ou Uriel, suivant les cas. Ça veut dire « lumière de l'Éternel ». Et cette lumière va être éteinte. David connaît bien la loi, il connaît les commandements de Dieu. Vous avez lu les psaumes, vous avez vu comment David revient tout le temps sur les commandements de Dieu, les lois de Dieu, qui sont merveilleuses, etc. Donc cette dernière information, femme d'Uri, aurait dû suffire pour lui dire « c'est bon, on arrête là ». Et c'est là qu'on va essayer de garder le coup d'œil de Dieu sur David. Il a vu tout ça, il ne se passe encore rien. Mais il voit qu'il va chercher des informations. Qu'est-ce que Dieu ressent? Oh là là, le danger. Oh là là. En plus, il a la préscience que nous, on n'a pas. Il voit où David va. Vous imaginez? Alors, Dieu n'est pas angoissé, mais quand même, cette souffrance de dire ah non. Ah non. Quelqu'un disait, je crois que c'était quelqu'un qui était venu parler aux jeunes il y a des années, et il disait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez le Saint-Esprit en vous et que vous allez quelque part où Dieu ne veut pas que vous alliez? Tu te rappelles? Et il disait, le Saint-Esprit est là, non, 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 fais pas ça, non, non, non. Et je pense que c'était un peu ça, hein, Dieu était là, oh non David, David tu vas pas faire ça, oh non. Aucun respect pour les héros, aucun respect pour... Enfin, aucune idée de ce qu'allaient être les répercussions dans les hautes sphères du pouvoir. Est-ce qu'il se souvient du discours de Samuel sur la royauté, qui était très clair? Il le connaissait certainement. David passe allègrement tous les obstacles. Il prend les impôts, les infos, il y va, il a fait venir, il envoie quelqu'un la chercher. Alors, comme je disais tout à l'heure, pouvait-elle refuser? Elle aurait peut-être pu faire appel à sa famille. Bon, son père était probablement à la guerre, mais son grand-père était à côté de David. Est-ce qu'elle était honorée? Est-ce qu'elle avait cet objectif en prenant son bain? La Bible ne dit rien à ce sujet. David donc couche avec elle. Plus tard, elle envoie des messagers lui dire qu'elle est enceinte. David pense avoir agi en secret. Mais qu'est-ce que Dieu? Parce que Dieu voit tout. Et vous savez, ça c'est un problème que nous chrétiens même, on n'en est pas toujours conscients. Dieu voit tout et entend tout. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, Dieu le voit. Dieu le voit. Tout ce qu'on pense aussi. Ça, je n'avais pas réalisé ça quand j'étais petite. Je me disais, tout ce que je fais, ok. Tout ce que je dis, ok. Mais je peux penser ce que je veux. Oh, quand j'avais, je ne sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, hein, je pensais ça, je me disais, voilà, on est tranquille. Je peux penser ce que je veux. Mais non. Dieu voit tout. Et je pense que souvent, on ferait beaucoup moins de bêtises, nous tous, chrétiens, hein, si on était davantage conscients que Dieu voit tout, entend tout et sait tout ce qu'on pense. Honnêtement. Hein, est-ce que on ne serait pas plus attentif à nos paroles, à nos pensées et à nos actions? Est-ce qu'on ne chercherait pas davantage à plaire à Dieu si on était davantage conscient? Ou alors on n'y croit pas? Bon, donc là, notre foi chrétienne est... Je ne sais pas. Je ne la qualifierais pas, mais enfin bon, c'est à remettre en question. Mais si on croit que Dieu voit tout, sait tout, entend tout, aïe, est-ce qu'on ne serait pas plus attentif à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit? David croit avoir agi en secret, mais en fait, si vous regardez bien, il a pris des informations. Ça veut dire qu'il y a eu des serviteurs qui étaient au courant. Et puis écoutez, quand le roi envoie des informations sur une jolie jeune femme, je pense que les serviteurs, ils ne sont pas idiots. Ils ont deviné pourquoi. Quand ils ont ramené les informations et qu'il a envoyé chercher, il y avait encore moins de secrets, parce que ce n'est peut-être pas les mêmes en plus qui sont allés la chercher. Il y a encore moins de secrets. Le truc s'étend là. Et puis après, quand elle envoie des messagers pour dire qu'elle est enceinte, ça fait encore des gens qui sont au courant. Donc, c'est important de prendre conscience de ça quand on lit le texte pour comprendre l'attitude d'Uri après. Est-ce que David a oublié que Dieu voit tout et entend tout? Proverbe 15:3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, regardant les méchants et les bons. Job 34:21. Ses yeux sont sur les voies de l'homme et il voit tous ses pas. Hébreux 4:13. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Et puis, je vais quand même lire le psaume 139, versets 1 à 12. Parce que là aussi, si vous avez des doutes sur la question, psaume 139, qu'est-ce qu'il dit le psaume 139? Psaume de David, imaginez. Bon, Seigneur, tu m'as examiné à fond. J'aime bien cette traduction. Hein. Tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Il s'est élevé d'ailleurs tard ce jour-là. Tu comprends de loin ma pensée. Ah ah. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Donc, tu connais mes motivations. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Il est honnête. On a du mal à s'imaginer ça. Cette connaissance étonnante me dépasse. Penser que Dieu voit tout et entend tout, ça choque. Hein. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Oui, on ne comprend pas comment il fait, c'est clair. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle ou à ton esprit? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà des mers, là aussi ta main me conduira. Ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Voilà, on peut continuer, vous pourrez continuer, mais là, c'est l'essentiel du psaume. David était conscient que Dieu voyait. Comment? Vous imaginez le cœur de Dieu là? Mais il le sait, il l'a dit, il le croit. Il sait que je le vois, mais quel mépris! Et vous allez voir, c'est exactement les paroles que Dieu va utiliser. Dieu a été bafoué, méprisé, parce qu'il est conscient que Dieu est là. Il est conscient que Dieu le voit. Et si on applique cette situation à notre vie quotidienne, la question se pose, est-ce que je suis conscient que Dieu a les yeux sur moi, et pas seulement pour me protéger? Parce que ça, pour nous protéger, on est OK, hein? Dieu est avec moi tous les jours, il est par devant, par derrière. Dieu me protège, Dieu a sa main sur moi, ça on est au clair là-dessus. Hein. Mais maintenant, conscient qu'il a les yeux sur moi, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, dans tout ce que je pense, c'est plus compliqué. Le problème, alors il est où? Pourquoi David, qui savait ça, a descendu la pente comme sur un toboggan? Quand on veut vraiment quelque chose, est-ce qu'on pense à prier? Je crois qu'on est tous un peu pareils. Si on veut vraiment quelque chose, est-ce qu'on pense à prier? Ben, on est humain, voilà notre fragilité, voilà notre humanité. Et David n'échappait pas à la règle. On pouvait avoir l'impression que c'était un homme extraordinaire, jusqu'alors, hein, je n'ai pas arrêté de le dire, mais il était humain. Il était humain, comme dit Hébreux, hein, Hébreux 11, des hommes comme nous. David était un homme comme nous, un être humain comme nous. Et ça nous fait réfléchir, si lui était capable, avec tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait vécu, de faire autant de bêtises, à combien plus forte raison, nous aussi. Est-ce qu'on pense à demander conseil quand on veut vraiment quelque chose? Notre humanité est là. Même le grand David, il a descendu la pente. Maintenant que Bethsabée est enceinte, qu'est-ce que David va faire? Eh bien, il va remonter la pente, il va demander pardon. Le David qu'on connaissait, hein, il aurait déjà demandé pardon. Il serait allé demander pardon à Dieu d'abord, et puis il aurait été voir le grand-père, puisqu'il était à côté de lui, le père, le mari, enfin, il savait quoi faire. Mais David, lui, au contraire, va être prêt à tout pour dissimuler. Pourquoi est-ce que, quand on fait une grosse bêtise, on préfère dissimuler que de demander pardon? Parce qu'on est humain. Parce qu'on est humain. Et parce que demander pardon, c'est humiliant. Et pourtant, jusque-là, David avait été toujours fidèle. Et vous allez voir comment il va procéder. Et là, on a envie de le renier, David. Pensez qu'Urie était un de ses héros de guerre. Un homme fidèle qui s'était converti au judaïsme, qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Verset 6. Quand il sait qu'elle est enceinte, il dit « Alors David fit dire à Joab, « Envoie-moi Urie, le Hittite. » Il ne donne pas d'explication, c'est le roi, on ne lui demande rien. Joab envoya Urie à David. Urie se rendit auprès de David. Et alors là, David, c'est le comble quand même. Écoutez ça. Il lui demande « Comment va Joab ?» Comme si c'était le rôle d'un héros de guerre d'apporter les nouvelles. Il y avait des messagers pour ça. C'était leur travail. « Comment va Joab ? Comment allait le peuple ? Et comment allait la guerre ?» Mais il y a des gens qui étaient chargés de ce travail-là. Pourquoi chercher un héros de guerre pour faire ça? Puis David dit à Urie, « Descends donc chez toi, te laver les pieds. » Urie sortit de la maison du roi, suivi d'un présent du roi. Donc encore quelqu'un qui portait un présent. Alors on pense que ce qui s'offrait dans ces moments-là, c'était des portions de nourriture, de viande, etc., de la table du roi. Donc il y a quelqu'un qui portait les casseroles derrière lui. Alors, « Va chez toi, te laver les pieds. » Il semblerait que ce soit une façon élégante d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. C'est ce que disent les théologiens. Urie sortit de la maison suivi d'un présent du roi. Mais Urie se coucha à l'entrée de la maison du roi avec les hommes de garde, c'est-à-dire avec les soldats qui gardaient le palais. Il ne descendit pas chez lui. Eh bien, il y a des gens qui viennent dire « on vient dire à David », c'est le « on ». On vient dire à David, c'est encore des gens qui étaient au courant, hein, qui suivaient l'affaire. On vient dire à David, Urie n'est pas descendu chez lui. Alors David dit à Urie, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Il est angoissé là. Hein, Urie répond à David, et là, misère. Sa réponse est terriblement culpabilisante pour David. C'est pour ça que, alors là aussi, les théologiens sont partagés. Moi, je penche pour le fait qu'il était au courant. Voilà. Surtout s'il a dormi avec les hommes de garde. Vous avez déjà vu des soldats de garde qui ne causent pas. Bon, entre eux, ça cause. Et ce genre d'affaires croustillantes, hein, bon. Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Urie répondit, le coffre. Ah, le coffre de l'Alliance. Ouh, rappelle-toi, David. Et je pense que quand Dieu a entendu ça, ça a dû lui faire un serment de cœur. Ce même David, qui a tellement respecté ce coffre de l'Alliance qui contenait la loi. Il l'avait tellement respecté qu'il avait fait une fête démentielle pour le faire revenir à Jérusalem. Il avait dansé de joie devant le Seigneur. Tant pis si on le méprisait, tant pis si on se moquait de lui. Le coffre, il commence par ça. Israël, lui, le roi d'Israël et de Juda. Israël et Juda. Juda, c'est sa tribu. Israël, c'est tout le peuple. Comment ça se fait? Le coffre, Israël et Juda habitent dans des huttes. Non, mais c'était ça son problème à l'origine. Il voulait que l'arche de l'alliance ne soit plus chez quelqu'un à l'extérieur. Et là, le coffre, Israël et Juda habitent dans des huttes, parce qu'apparemment, ils avaient emmené le coffre de l'alliance à la guerre. Ils faisaient ça assez souvent, les Israélites. Mon maître Joab et les hommes campent en rase campagne. Et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aïe, aïe, aïe. Lui, pendant ce temps-là, David profitait de la vie, ne faisait rien et prenait la femme d'Uri. Donc vous voyez, la façon dont Uri va s'exprimer, ça choque. Et le cœur de Dieu est là en se disant, il lui tend la perche quelque part. Pense au coffre, pense au commandement, passe à ton peuple, tu es le roi. David, il ne bouge pas. Hein. Il empire même. Par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille. David dit à Uri, reste encore ici aujourd'hui et demain je te reverrai, je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire devant lui et il l'énivra. Allez, encore un petit coup, allez, bois, allez, Uri, allez. Aïe, 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 David, manipulateur. Comment il peut faire ça? Vous imaginez le cœur de Dieu? Ce David qui n'avait même pas osé répondre aux idées de meurtre de Saül. Saül voulait le tuer, il passe par derrière et lui coupe un bout de son manteau juste pour lui montrer. Enfin, cette droiture, ce sérieux. Et là, il va jusqu'à énivrer un de ses soldats. Vous imaginez le cœur de Dieu? Parce que Dieu aimait Uri. Dieu aimait cet homme qui l'avait choisi. Lui, il n'était pas juif. Parce qu'il était né juif, il avait choisi d'honorer l'Éternel Dieu. Vous imaginez le cœur de Dieu? Non, mais c'est pas vrai. Et là, je reviens à mon image, hein, quand une maman voit ses deux enfants qui s'étriplent. Mais la douleur de voir son David, cet homme selon son cœur, qui est en train de... Il se prépare à massacrer un innocent. La douleur de Dieu. Il l'énivra le soir. Uri sortit, se coucha avec les hommes de la garde encore, mais il ne décida d'incendie pas chez lui. Et le matin, David va consulter le Seigneur. Oh ben non, il a perdu l'habitude. David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent, retirez-vous derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Et c'est ce qui va se passer, je pense qu'on le verra la semaine prochaine. Waouh! On a passé en revue ses réactions. Uri a mis le doigt prophétiquement sur la situation dangereuse de David. Je crois que il a fait ce que Dieu lui demandait à Uri. S'il est conscient, il essaie de réveiller la conscience de David. Mais ça, on est partagé. Était-il conscient? Moi, je pense qu'il l'était. Parce que même ivre, il va garder sa conscience, ce qui tend à prouver qu'il était informé. Parce que ivre, quand même, on ne se maîtrise plus des masses. Enfin, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas été, mais si ça vous est arrivé, ça tend à prouver qu'il était informé. Il portera lui-même à Joab sa condamnation à mort. La Bible dit pourtant malheur à celui qui prémédite la mort. David insiste, il le retient, il va jusqu'à le faire boire. Mais lui reste ferme, les rôles sont inversés. David, qui pardonnait au coupable, va maintenant devenir coupable envers un innocent. Et vous savez, la Bible aime bien ces contrastes. Hein, ça, c'est... Il y a plusieurs théologiens qui l'ont remarqué, entre autres Matthew Arnold. Et c'est vrai, du coup maintenant j'y pense quand je lis la Bible aime bien mettre face à face des contrastes. Parce que ça fait ressortir les choses, évidemment. Hein, si vous mettez une jolie bague sur du velours noir hein, ou du velours bleu marine, ça fait joli, ça ressort. Et c'est un peu, la Bible fonctionne beaucoup comme ça. Elle fait des contrastes pour attirer notre attention. Et David, celui qui avait pardonné au coupable, va maintenant être le coupable qui condamne un innocent. Et il voit qu'une solution le matin. La solution de la repentance ne l'effleure pas. Mais comment, lui qui était si fidèle? Cet homme qui prenait toujours le conseil de Dieu, qui avait suivi les conseils d'une autre femme qui s'appelait Abigaël. Vous vous souvenez? Quand Abigaël, elle est arrivée en disant « Écoute, calme-toi », je modernise le langage, hein, mais c'est « Calme-toi, ne va pas faire un bain de sang, mon mari est épouvantable, ça va mal finir, calme-toi, je vous donne à manger, je vous donne tout ce qu'il faut, et puis abandonnez, pas de vengeance, etc. » Il avait écouté les conseils d'une femme sage, quand son mari est mort d'ailleurs, il l'avait épousée. Et là, il s'enfonce dans le mépris de Dieu et de ses commandements. Et il envoie par Uri une lettre à Joab avec l'ordre de faire tuer Uri. Et par les païens en plus, par les ammonites. Manipulation. Comment il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu descendre? David, qui avait respecté la vie de Mephibosheth, je le répète parce que c'est quand même choquant, le petit-fils de son ennemi, il a respecté sa vie. Ça ne se faisait pas à l'époque. Hein. À l'époque, la famille du roi déchu, elle passait au fil de l'épée. Vous vous souvenez qu'il avait déploré la dureté de Joab quand Joab avait tué Abner, général de Saül. Il était furieux, David, mais il était furieux. Et il a fait une complainte sur Abner. Enfin, son cœur était blessé. Et là, son cœur ne sent plus rien. Mais le cœur de Dieu, oui. Qu'est-ce que Dieu peut penser, dire, mais Dieu était tellement fier, moi j'imagine, quand il a dit, mais pourquoi vous avez tué un homme vaillant comme Abner, etc., et en plus par traîtrise, et c'est Joab qui l'avait tué par traîtrise. Et là, il demande à Joab d'être traître. Vous imaginez le contraste encore là? Il va demander à Joab, allez, traîtrise envers Uri. Uri qui n'a rien fait de mal. Comment il a pu en arriver là? Je pense que Dieu devait être, après avoir été tellement fier de David pendant des années, quelle souffrance ça devait être de le voir couler dans le mensonge, l'adultère bien sûr, le mensonge, la manipulation et le meurtre. Et plus aucun respect pour la parole de Dieu. David avait compris dans son cœur la notion de grâce. C'est un des premiers personnages de l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup, qui ont compris ce qu'était la grâce. Et là, Philippe développera ça un petit peu plus tard sur le cœur de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi on disait ça? Comment pouvait-il faire tuer un homme de son armée d'élite juste pour lui voler sa femme? Mais je rêve. Il va mettre toute son intelligence stratégique au service de son plaisir au lieu de chercher à plaire à Dieu. Il avait toujours cherché à plaire à Dieu. C'est ce qui lui avait permis d'arriver jusqu'où il en était. Et la conclusion de cette histoire dans la Bible, elle est lapidaire, hein. Ceci déplut à l'Éternel. Ceci déplut à l'Éternel. Et j'imagine la souffrance de Dieu, la déception, et j'imagine aussi la joie du diable. Vous savez, si on reprend la scène de Job, vous imaginez le diable? Ah, dis donc, ton vainqueur de Goliath, il est pas beau, hein? Ah oui, l'homme juste, hein? Ah bah dis donc, hein? Maintenant, c'est lui qui tue l'innocent. Bah oui. C.S. Lewis s'est amusé à écrire un livre comme ça à l'envers pour montrer les manigances de Satan. Et on pourrait faire ça là, hein. On pourrait écrire un livre qui raconte comment Satan s'est frotté les mains. Oisiveté, convoitise, mensonge, adultère et meurtre. Waouh, génial. Le diable pouvait se frotter les mains. Et Dieu était dans la souffrance, le cœur de Dieu souffrait de voir son fils bien-aimé, son fils David, en arriver là. Ça nous montre comment l'être humain est vulnérable dans ces moments de grande prospérité et de succès. Et vous savez, parfois on se demande, on connaît des hommes de Dieu qui ont fait des choses extraordinaires. On les a respectés, on les a écoutés, on les a malheureusement peut-être trop complimentés, trop mis sur un piédestal. Puis un jour, on apprend des choses horribles. Ils n'ont pas fait mieux que David. Et alors, une partie de la chrétienté va leur jeter la pierre. Mais est-ce qu'on est conscient que ces gens ont, comme David, atteint une certaine gloire, Vous savez, quand on se retrouve tout seul à la tête d'une église de 50 000, 100 000 personnes, comme je ne citerai pas les noms, mais il y en a beaucoup aux États-Unis en ce moment, et je crois en Ukraine aussi. Je crois qu'il y avait un pasteur d'une méga église en Ukraine. Apparemment, il a bien tourné, je ne connais pas l'histoire. Mais aux États-Unis, on en a vu plusieurs comme ça, qui ont mal tourné. Pourquoi ? Parce qu'arriver au sommet de la gloire, on devient fragile. Humainement, notre humanité, elle est toujours là. On a beau avoir fait des grandes choses pour le Seigneur, notre humanité, elle est toujours là. Et nous, à notre petit niveau, pensons-y aussi. Quand tout va bien, qu'on a bien réussi, qu'on est content, l'ennemi est là. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et il connaît les moments de fragilité de notre vie. Les moments où on va rentrer dans la déprime, les moments où on va se croire tout puissant, les moments où on est au sommet de la gloire et du coup, on risque de faire des bêtises. Et regardez ça dans le monde sportif, par exemple. Alors, pour ceux qui s'intéressent au sport, je suis sûre que vous avez des exemples. Moi, j'en ai pas parce que je suis pas trop branchée sport. En tout cas, pas ce genre de sport. Mais le monde artistique, les chanteurs, les peintres célèbres, etc. Le monde politique, on en a malheureusement un exemple en ce moment. On arrive à faire des grandes choses, on est à la tête d'un grand, grand, grand pays, presque un continent. Et alors, le monde médical aussi, on l'a vu là avec les vaccins et tous les problèmes des laboratoires. Arriver à un certain niveau de gloire et de puissance, comment est-ce qu'on utilise ces choses-là ? Les entreprises et même les hauts fonctionnaires en France. Combien d'abus chez les hauts fonctionnaires ? Parce qu'ils sont arrivés au sommet de leur carrière. Ils sont puissants. Ils ont de l'influence. Et arrivé à la gloire, l'homme se sent au-dessus des lois. C'est vrai même dans le monde chrétien, malheureusement, parce que l'homme est homme, il reste humain. Il a beau être chrétien, avoir donné sa vie à Jésus, il reste en chair et en os, il a son âme avec ses blessures, ses soucis, ses craintes, etc. Depuis la création, l'être humain est sensible aux insinuations de l'ennemi. La première insinuation, vous vous rappelez ? Dieu a-t-il réellement dit ? T'es sûr que tu ne peux pas faire ça ? T'es sûr qu'au point où tu en es arrivé, tu peux te permettre ? Ces insinuations-là, elles cassent les humains. Heureusement, Dieu n'abandonne pas ses enfants, même quand ils désobéissent. Là, on va finir sur une note positive. Même si le cœur de Dieu a souffert de voir ce qui s'est passé avec David, je remarquerai juste une chose pour la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, quand on va reprendre ce texte, Dieu est patient. Et moi, étant petite, je pensais que Dieu aurait dû, dès le lendemain, foncer sur David et lui mettre une bonne raclée. Mais non, il va attendre. Il va attendre avant d'envoyer Nathan. Et qu'est-ce qu'il attend ? Pourquoi il attend ? La Bible dit à un autre endroit. Il attend qu'on se repente. Il attend que ça vienne de nous. Seulement quand ça ne vient pas de nous, au bout d'un certain temps, la patience de Dieu s'arrête. Et là, il va envoyer Nathan et on va voir ça la prochaine fois. Et je crois que ce texte ne concerne pas seulement l'adultère, je ne vais pas me fixer là-dessus, mais toute désobéissance à Dieu, dans n'importe quel domaine. Que ce soit une prise de décision au travail, la volonté d'éliminer un concurrent au sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petites jeunes filles qui faisaient du tennis, des compétitions de tennis, qui venaient à l'église, et elles nous ont raconté comment toutes les manipulations, les stratégies pour éliminer les concurrents, et elle devait résister à ça. La recherche malhonnête de l'argent, du pouvoir, des manipulations pour obtenir des avantages qui étaient destinés à un autre, ça dans le monde du travail, hein, vous savez. Et aussi pour les chrétiens, tordre le bras de Dieu pour des projets que Dieu n'approuve pas. Ça c'est courant, parce qu'on le fait pour Dieu. Où on croit le faire pour Dieu. Et combien j'ai vu des gens tordre le bras de Dieu, malgré les obstacles, malgré les informations, comme David avait des bonnes informations. Ça fait rien. Je veux. Les tricheries financières, politiques, on n'est pas à l'abri. Donc il n'y a pas que ce problème d'adultère, mais toute forme de désobéissance à Dieu où on s'entête. Je crois qu'il faut le confier au Seigneur. Et si aujourd'hui, peut-être l'un ou l'autre, on peut être dans un cas comme ça, je crois que c'est le moment de ne pas descendre la pente. Vous savez, moi, quand j'étais petite, et je sais que mes petits-enfants aiment beaucoup les toboggans, toboggan aquatique, c'est encore mieux. Et une fois qu'on est dessus, pas évident de s'arrêter, hein. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais la prière est puissante. Et si vous sentez que vous êtes sur un toboggan, que ce soit dans des manœuvres malhonnêtes, des problèmes de boulot, peu importe, Dieu peut vous arrêter avant la catastrophe. Donc on va prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce et parce que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de vengeance envers tes enfants. Quand tu les vois descendre le toboggan, tu es encore là, Seigneur. Tu vois, tu sais et tu souffres. Nous voulons, Seigneur, aussi chacun aujourd'hui être conscient que tu nous vois, que tu nous entends, que tu nous connais. Qu'on puisse vraiment s'approprier ce psaume 139. Et qu'on soit davantage conscient, Seigneur, que nos décisions te font parfois souffrir. Que ton cœur se serre quand tu vois qu'on prend un mauvais chemin, une mauvaise façon de faire. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous. Merci pour ta grâce. Parce que, Seigneur, nous allons le voir la prochaine fois. Tu es un Dieu qui pardonne. Tu pardonnes aux coupables. Seigneur, merci pour Jésus qui a donné sa vie. Merci parce qu'on n'est plus sous la loi. Et que même sous la loi, tu as fait grâce. Mais raison de plus maintenant, parce que Jésus a pris nos fautes, il a pris notre châtiment. Merci Seigneur pour ton pardon et ta grâce. Et Seigneur, aide-nous à te rendre heureux. C'est peut-être une idée bizarre, mais elle est clairement exacte. Nous pouvons rendre ton cœur heureux. Nous pouvons réjouir ton cœur. Et aide-nous chacun ici dans l'église d'Aubergenville à réjouir ton cœur par nos paroles, par nos actions, par nos pensées. Merci Seigneur pour tous les responsables de l'église qui cherchent à te rendre heureux, à réjouir ton cœur par leurs actions, leurs pensées. Merci Seigneur. Merci parce que tu tiens cette église dans ta main et tu la bénis et tu la fortifies et tu nous remplis Seigneur de ta présence et de ta joie. Merci pour ton pardon Seigneur. Amen.